LSD, la série documentaire. Un podcast France Culture.
Allez-y, rentrez. Mettez-vous à l'abri. Là, il est 6h35 et je suis censé commencer mon service à 6h49. Voilà. Donc là, aujourd'hui, voilà ce que je fais avec mon numéro de service. Ça, c'est mon heure de prise de service et ma fin de service. Donc 6h49, date d'embauche, et 13h14, heure de débauche. Voilà. Ça, c'est les lignes que je fais aujourd'hui, la 2 et la 1. 6h57, c'est l'heure où je dois partir du départ. Donc entre l'heure d'embauche et le départ, on a 8 minutes
aidant
pour tout faire.
La vie en suspens.
Donc, s'identifier, faire le tour du véhicule.
Par Karine Leloët et Clémence Gross.
Donc là, on prend la direction du véhicule. Donc ici, c'est le dépôt principal où il y a tous les véhicules de stationnés.
Épisode 4. Travail, vie privée.
Salut Doric.
Le temps fractionné.
Alors, ah ben mon bus est juste en face.
À La Rochelle, des bus blancs et jaunes sillonnent chaque jour le territoire. Entre 5h et 22h30 la semaine, 2h du matin le week-end.
Et voilà, là ils démarrent.
Ils appartiennent à la flotte de la Régie des transports communautaires Rochelais. Un service public fort de 280 salariés, dont 180 conducteurs qui embauchent et débauchent à des horaires stricts.
Voilà. Donc, on va attendre qu'il chauffe un petit peu. Là, on a plus que ça à faire, attendre à patienter. Du coup, parce qu'on est censé partir qu'à 6h57 du dépôt. Voilà.
Environ la moitié des aidants sont en emploi.
Anaïs Chenot, économiste de la santé.
Donc ça équivaut à peu près à 4 millions d'aidants en emploi. Donc on a une conciliation des temps sociaux qui est très difficile. Ça peut conduire à modifier les trajectoires professionnelles, réduire son temps de travail, gagner moins, faire des renoncements de carrière. Donc c'est vraiment un enjeu majeur de pouvoir améliorer cette conciliation des temps sociaux.
Alors moi ce matin je me suis levé, il était 5h15. Le temps de me préparer, de déjeuner et puis... J'ai pris la route vers 6h05 et puis à 6h15, j'étais là. Tout le monde dormait à la maison. Là, ils vont pas tarder à se lever. Là, tout le monde va se lever tranquillement. Ma femme, elle va s'occuper des enfants, comme à son habitude. Elle va emmener le petit à son école. Mon plus grand, lui, est pris en charge par le CESAD. Donc, c'est son psychomotricien qui vient le chercher. Il va faire sa séance au CESAD. Et après, c'est son éducatrice qui le prend en charge pendant une heure. Et elle le ramène vers 17h, 17h15 à la maison. Donc c'est pour ça que pour la rentrée septembre, j'ai demandé à être dans le groupe du matin.
Selon la profession que l'on va exercer, il va y avoir une capacité de conciliation entre le rôle d'aidant et la vie professionnelle qui va être quand même plus importante pour certaines professions que d'autres.
Sophie Audena, sociologue du travail.
Quand on est cadre supérieur, quand on exerce une profession où on travaille beaucoup via Internet, où on peut faire des visioconférences, il y a quand même un aménagement qui peut être amené. Ben, on peut dire, bon, ben là, cette réunion, on l'a fait en visio, on continue à travailler à distance. Et on peut aménager ses horaires de travail. Par exemple, si on est dans l'enseignement supérieur, on peut préparer son cours si on a, une fois que la personne aidée, que ce soit une personne âgée ou un enfant, une fois qu'il est couché, l'enfant, on peut travailler le soir. On peut préparer ses cours le soir. On peut travailler de nuit, même si c'est loin d'être la panacée. Mais en tout cas, c'est possible. Et du coup, c'est invisible. L'aidant, elle est beaucoup plus facile à cacher à son entourage que quand on doit être à son poste de travail de 8h à 18h le soir, où là, on n'a pas le choix.
Ah, il est l'heure de partir. Donc là, je vais faire un appel radio avant de partir, parce qu'il faut prévenir avant qu'on sorte.
Et en plus, quand on n'a pas la possibilité de payer quelqu'un pour rester à la maison à sa place, on a d'autres choix que d'arrêter de travailler ou de se mettre soi-même en maladie. Et donc, le fait qu'ils se mettent eux-mêmes en maladie, ça va permettre qu'ils s'occupent de l'aider. En fait, c'est des personnes qui ne se reposent pas. C'est le fait d'être aidant, ça éclabousse toute la vie.
Oui, c'est Félix en direction de Mireuil, RAS.
Bien reçu, bonne matinée.
Merci, pareillement terminé.
Merci.
Donc là, vous voyez, vous passez les feux là-bas et on est à La Rochelle.
Donc quand les personnes vont se mettre en retrait de leur activité, ce qui va se passer aussi, c'est un isolement social progressif. Alors selon la pathologie de la personne aidée, c'est très variable aussi, mais quand on a une personne qui est en lit médicalisé, dans la maison, qui nécessite une présence quasi permanente, au début, bon, la famille continue à venir, les amis de temps en temps, enfin voir des amis, ça veut dire que soit eux viennent au domicile, mais pour que la personne qui aide aille au cinéma, au restaurant, en fait, progressivement, ça, ce sont des choses qui ne sont plus possibles. Progressivement, la sociabilité de ces personnes-là se réduit comme une peau de chagrin parce que leur présence auprès de la personne aidée va s'accroître, le temps de présence. Et que ce soit des hommes comme des femmes, hein, parce que les quelques hommes moi, que j'ai rencontrés employaient le même vocabulaire, à savoir d'avoir le sentiment d'être enfermé à domicile avec des inégalités sociales. Parce que quand on peut payer, déléguer pour venir garder la personne aidée, on peut continuer à avoir une vie sociale et à travailler.
Donc là, on est parti.
La majorité des aidants sont des aidantes. Et donc, les répercussions de l'aide sur le marché du travail va plutôt aller dans le sens d'une consolidation des inégalités femmes-hommes.
Roméo Fontaine, chercheur à l'Institut national d'études démographiques.
On sait hein, aujourd'hui qu'un des facteurs le plus important d'inégalité femmes-hommes sur le marché du travail, c'est l'inégale répartition des activités parentales, des activités domestiques et des activités d'aidance. Et donc, la sortie du marché du travail est quelque chose qu'on retrouve de manière beaucoup plus fréquente lorsqu'elle concerne des parents et en général des mères qui sont confrontées au handicap d'un enfant. Parce que c'est souvent des mères qui sont à la fois investies dans les activités parentales classiques et qui viennent s'ajouter à ça des besoins supplémentaires liés au handicap des enfants. Donc, c'est des prises en charge qui sont extrêmement lourdes.
Et selon les caractéristiques socio-professionnelles des mères, ça ne va pas être tout à fait les mêmes modifications.
Sophie Dessin. Sociologue.
Et les mères de classe supérieure, hein, qui ont des emplois à responsabilité, de cadres supérieurs, des professions intellectuelles supérieures, en fait, elles vont plus souvent, en effet, rester à temps plein ou réduire un tout petit peu leur temps de travail, mais il va y avoir beaucoup d'autres modifications de type des renoncements à une évolution de carrière, voire un déclassement. On a certaines mères qui étaient, par exemple, ingénieures, chercheuses, qui, en fait, ne peuvent plus assumer des postes à grande responsabilité de management d'équipe, et qui, en fait, choisissent des postes juste en dessous, de pilotage de projet, le temps de pouvoir se reposer un petit peu. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'elles disent. Aussi, le fait de pouvoir déconnecter la sphère familiale et la sphère professionnelle, puisque dans les métiers à haute responsabilité, en fait, le soir, quand on rentre chez soi, voilà, on a toujours un bout de recherche à continuer, on a des petits problèmes d'équipe à gérer. Donc, en fait, passer à un emploi de pilotage de projet, par exemple, c'était plus simple pour elle que de manager des équipes de recherche. Et donc, en fait, il y a des effets de déclassement. Et on a des renoncements de type, elles ne peuvent plus évoluer dans leur entreprise actuelle, elles ont atteint le niveau maximal, il faudrait qu'elles bougent, il faudrait qu'elles aillent dans d'autres entreprises. Elles ne savent pas ce qu'elles vont gagner là-bas, elles savent ce qu'elles vont perdre vis-à-vis de l'entreprise dans laquelle elles sont ou qui leur a aménagé des petites choses pour justement qu'elles puissent articuler au mieux sphère familiale, sphère professionnelle et sphère du handicap. Est-ce qu'elles vont retrouver ça dans le nouvel emploi? Elles ne savent pas et donc ça les empêche un petit peu de changer d'emploi et d'avancer en carrière.
Donc là, c'est l'école au travail de ma femme, et côté maternel. Et à côté, c'est l'école où est mon dernier. Ouais, côté primaire, de ce côté-là. Et là, le collège de mon fils qui est tout en haut là-bas. Donc là, normalement, il y a un transport qui vient chercher à la maison. Il est en classe Ulysse avec beaucoup d'inclusion. Bonjour.
Alors du côté des mères qui ont des emplois moins qualifiés, alors en effet elles vont être plus amenées à s'arrêter de travailler drastiquement. Alors en général ça se fait par étapes, elles commencent par diminuer leur temps de travail. Ce sont des femmes qui aussi modifient davantage leurs horaires que chez les classes supérieures par exemple, puisqu'en fait leur travail est moins flexible que pour les classes supérieures qui peuvent plus avoir recours au télétravail ou au forfait cadre qui leur permet un peu de moduler leurs horaires. Elles peuvent beaucoup moins. Elles sont hôtesses de caisse, elles sont auxiliaires de puériculture. Elles vont faire des horaires plus tardifs pour pouvoir gérer les rendez-vous dans la journée, par exemple. Elles vont gérer la caisse le week-end pour, là aussi, se libérer dans la semaine pour la gestion quotidienne des rendez-vous, des soins, de la coordination pour leur enfant. Puis en fait, ça va être quand même compliqué, ça va être énormément de fatigue aussi, puisqu'elle travaille sur le temps privé classique, le soir et le week-end. Et la semaine, en fait, elle gère le parcours de soins, donc elle se repose jamais. Et puis, finalement, souvent, elles ne peuvent plus continuer à ce rythme-là, elles se mettent en arrêt et elles se retirent du marché du travail.
Terminus. Salut toi.
Salut.
Ça va?
Oui. Ça s'est bien passé aujourd'hui?
Ouais.
Allez, enlève ton sac. Voilà. Il est lourd, ton sac encore là.
Ta veste.
Ouais. C'est bien mon chat. T'as pas eu trop chaud?
Si.
Ouais, je m'en doutais. Hein.
Eh ouais, on sait pas comment on se met avec ce temps.
Donc, je m'appelle Audrey. J'ai 39 ans. Et du coup, je suis maman de deux garçons. Donc, Nolan qui a 13 ans et Lénaï qui va avoir 8 ans bientôt.
Est-ce que tu veux boire un peu, Nolan?
Alors, j'ai fait pas mal de petites choses hein, quand même. Hein. Mon parcours professionnel est assez varié. Donc, j'ai travaillé en crèche, en halte-garderie. J'étais un peu dans la restauration, dans l'hôtellerie. Je travaillais en pressing et puis j'ai eu mon petit garçon entre-temps, mon premier. Il allait à l'école que les matins quand il était scolarisé à la maternelle parce qu'il y avait des petites difficultés, il y avait des troubles du comportement. Et donc les choses se sont enchaînées parce qu'il y a eu un suivi orthophoniste assez rapidement, parce qu'il avait un retard de langage. Voilà, ça a continué du coup et il y a eu un diagnostic à ses 8 ans. C'est là qu'on a appris qu'il avait des troubles autistiques. Alors il était dans la catégorie Asperger, sans déficience intellectuelle, mais quand même le diagnostic était posé. Comme il était scolarisé que le matin, Nolan, du coup, mon mari, lui, travaillait à ce moment-là. Comme il était déjà conducteur de car et j'arrêtais de travailler. Enfin, ça a été discuté aussi, mais lui avait quand même un contrat CDI du coup, hein, donc c'était plus facile que ça soit moi qui travaille moins.
Donc je travaillais un petit peu le matin, donc c'était j'embauchais entre 6h et 6h30. C'était principalement que du scolaire avec un tout petit peu de ligne régulière. Donc c'était en gros aller entre 6 et 10 heures le matin et 15h, 19, 20h le soir. C'était fatigant parce que on travaillait le matin, on avait une grosse coupure, il fallait repartir l'après-midi pour travailler. Et quand Nolan était à l'école, eh bien, c'était pendant mes horaires de travail, donc je le voyais très peu. Souvent, c'était très peu le soir, ou alors quand je rentrais, il était déjà couché. Parce que les week-ends, c'était compliqué parce que c'était un samedi sur deux. C'était un dimanche sur quatre où je travaillais, donc c'était compliqué.
Il y a eu beaucoup, beaucoup d'organisations, beaucoup d'ajustements aussi. Et puis, il faut savoir qu'on n'a pas de famille, donc on n'a pas eu le choix de se débrouiller comme ça. Puis il y a le côté financier aussi. Enfin, quand il y en a qu'un qui travaille vraiment, bah du coup, il faut que ça suive aussi derrière. Donc j'ai repris quand il est allé à l'école toute la journée, entre la moyenne et la grande section. Enfin, je travaillais juste entre midi et deux, ce que je fais actuellement, la pause méridienne dans une école. Pour moi, c'était le fait aussi de souffler, de pouvoir aussi avoir une vie sociale, c'est important. Et puis, j'avais besoin de me sentir, alors je dirais pas comme tout le monde, parce que, bon, voilà, mais j'avais quand même besoin de sortir de chez moi un petit peu, d'être en dehors un peu des suivis pendant 2 heures, quoi. C'est vrai que ça me faisait du bien. Donc, je faisais ce que je pouvais, mais on va dire que c'était un travail qui était accessible à ce moment-là, au vu de l'organisation du moment. Donc, parce qu'en fait, quand Lénaïque est née, Nolan avait 5 ans et quelques mois. Ça s'est très bien passé, hein, il n'y a pas eu de soucis. On était très heureux d'avoir un autre petit garçon. Bon, après, Lénaïque, lui, c'est vrai qu'il n'y avait pas, au tout début, il n'y a pas eu de crainte du tout, parce que c'était un enfant qui a eu un développement tout à fait normalement. Et c'est bien après, vers 15-16 mois, où là, il y a eu une régression au niveau de son évolution. Et je crois que là, le monde s'effondre quand même, même si effectivement, on a relativisé. Mais je veux dire, voilà, c'est vrai qu'on s'est dit, il va falloir tout recommencer. Ça va se passer comment? On a eu très, très peur. Et donc là, Lénaïque a été quand même diagnostiquée à ses 4 ans.
Donc j'ai décidé de tout chambouler. C'est par le biais d'anciens collègues qui sont passés à l'RTSR et on m'a dit, mais ils recherchent tout le temps. Vas-y, ça peut être que bénéfique pour toi. Voilà, aujourd'hui, je suis très bien où je suis.
Là où ils travaillent, c'est quand même beaucoup mieux, enfin beaucoup mieux, au niveau horaire, parce qu'avant, c'est vrai que les horaires étaient quand même beaucoup plus denses, enfin, c'est-à-dire que c'était vraiment toute la journée. Là, il est soit du matin, soit de l'après-midi, donc déjà, j'ai l'impression d'être moins toute seule, voilà, donc il est quand même beaucoup plus présent en tant que papa et mari, et c'est quand même mieux.
Moi, quand je vais au boulot, je suis pas aidant, je vais faire mon travail comme tout le monde, je suis un salarié comme les autres. Le boulot, voilà, c'est une parenthèse sociale, ça c'est sûr. Ça fait du bien surtout. Parce que c'est vrai que on s'est coupé de beaucoup de monde. Déjà vis-à-vis de la famille, vis-à-vis des amis. On a quelques amis qu'on voit pas non plus régulièrement, donc on est souvent très seul.
Après, ils sont quand même scolarisés une bonne partie de la journée. Je dirais que c'est un peu plus confortable qu'il y a quelques années, du coup. Mais de toute façon, notre planning, il est fait. Tous les jours, on sait ce qu'on a à faire. On sait comment les rendez-vous des garçons. Donc finalement, on suit le mouvement.
Donc en général, jusqu'à 20h, donc de 6h30 à 20h, on est occupé, quoi. Entre faire à manger, les faire manger et puis s'occuper d'eux après. On fait plus de repas à quatre. Donc on essaye de les faire manger l'un après l'autre. En général, ça se passe mieux comme ça. Alors on a chacun le sien. Moi, je m'occupe du petit et maman s'occupe du grand. C'est quasiment du 24-24. À part quand ils sont couchés. C'est le seul moment où nous, on a notre tranquillité et on peut respirer.
Ce qu'il y a, c'est que tous les deux s'entendent oui et non. Même s'ils ont des troubles autistiques, ils sont très différents. Ils ont leur personnalité aussi différente, ce qui est normal comme tout le monde. Et ils ont des besoins différents. Donc Nola, lui, qui aurait plutôt tendance aussi à vouloir avoir un peu de tranquillité. Lénaïque, lui, il a besoin d'extérioriser en criant, en bougeant. Voilà. Donc, et puis, ils n'ont pas le même âge. Donc c'est vrai que ça peut engendrer facilement des comportements, des crises de nerfs. Donc finalement, tout le monde s'énerve et puis c'est compliqué, quoi. Moi, j'ai eu un moment donné, il n'y a pas très très longtemps, où j'étais un peu en colère. Et triste aussi, parce que j'aurais tellement voulu que ça se passe autrement, avoir une vie ordinaire, de se dire, on travaille, nos enfants vont être gardés. Enfin, je veux dire, j'aurais bien voulu continuer dans la petite enfance, continuer d'évoluer, peut-être repasser un diplôme. Avoir du temps pour le passer, c'est ça surtout, c'est que mine de rien, c'est qu'il faut du temps pour tout ça, et des fois j'ai l'impression de manquer de temps, envie d'être valorisée aussi en fait, de se dire parce que moi j'ai l'impression en fait, je me suis dévalorisée, pareil, en disant à mon mari, mais toi t'as un chouette boulot, enfin, et moi j'ai l'impression d'être un peu partie dans tous les sens, et à un moment donné, on arrive à un âge où on a envie de se stabiliser aussi, c'est un tout, hein. On se dit que, encore une fois, ça a été aussi... le débat, je disais à mon mari, toi, tu auras une super retraite. C'est pas ça, mais je veux dire, il aura une retraite, quoi, parce que il aura cotisé. Et puis lui, c'est vrai que on en parlait encore il y a pas longtemps. Je disais, toi, en même temps, tu vas aller jusqu'à la retraite et ça se passera bien pour toi. Et moi, du coup, je ne sais pas. Finalement, je sais pas où. Alors, le pauvre, c'est vrai qu'il ne le vit pas très bien pour moi non plus. Je le sens aussi tracassé beaucoup. Et lui aussi aurait tellement voulu que ça se passe autrement pour moi.
C'est pour ça que j'ai demandé à partir de septembre d'intégrer le groupe du matin pour qu'elle puisse, une fois que les enfants seront à l'école, qu'elle puisse travailler toute la journée pour que moi, l'après-midi, ce soit moi qui gère les enfants quand ils rentrent. Parce que la plupart du temps, c'est elle, c'est 90% du temps, c'est elle. Les groupes, à la base, c'était par rapport à l'ancienneté dans l'entreprise. Et là, les salariés aidants ont eu une priorité sur les groupes. Et si je peux la soulager de ce côté-là, je le fais et je le ferai.
Allez, vas-y, mon grand. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Allez, à l'heure, mon grand.
À tout à l'heure.
Bonjour.
Nolan, à tout à l'heure.
En France, on a l'étude menée par le service statistique de l'éducation nationale en 2015 qui montre que 40% des mères se sont retirées, ont plus d'activité professionnelle, des mères d'enfants handicapés, et 6% des pères. Et on retrouve ces dynamiques-là dans la majorité des études sur les parents aidants.
Sophie Dessin.
Alors, quand je demande aux mères comment elles ont décidé de mettre en retrait leur carrière par rapport au père,
Il y a tout un ensemble de déterminants. Alors souvent, le premier réflexe, c'est de dire qu'elles gagnaient moins que leur conjoint. Une raison économique assez classique, réelle. Mais pour autant, en fait, on a aussi des mères qui gagnaient plus et qui se sont plus mis en retrait professionnellement. On a aussi des mères qui soit avaient le même niveau de salaire, soit gagnaient légèrement moins, mais étaient beaucoup plus stables dans leur emploi que leur conjoint qui était musicien intermittent ou qui avait plein de petits contrats dans la restauration. Et pour autant, même avec la stabilité de leur emploi plus stable que leur conjoint, ce sont elles qui se mettent en retrait. Les pères modifient très peu leur carrière. En général, ils aident leurs enfants, hein, mais sur des choses très spécifiques. Par exemple, les pères vont faire des rendez-vous très précis dans la semaine. Hein. Donc, par exemple, ils ont le rendez-vous du jeudi soir chez la psychomotricienne, par exemple. Donc, ils ont un rendez-vous très précis qui est souvent organisé par les mères qui, elles, organisent tous les emplois du temps et articulent toutes les sphères. Mais en général, ils vont surtout investir le rôle quand même de pourvoyeur de ressources. Et donc, ils vont accentuer leur rôle de financeur de la famille, en fait, et aussi faire les aménagements matériels, aussi aménagement de la maison, etc. Et donc, ça rejoint en fait pas mal d'études qui parlent des pères qui, en fait, sont des... Alors là, je cite les études, sont des acteurs secondaires, sont des auxiliaires de la mère. C'est plutôt leur rôle de venir en auxiliaire en tant que soutien vis-à-vis des demandes et des impossibilités de la mère. Alors pourquoi l'aide est encore plus genrée pour ces mères d'enfants en situation de handicap ? Il y a plusieurs raisons et ce sont des raisons qui se co-construisent, elles sont imbriquées toutes ensemble. Mais en fait, il y a beaucoup de choses qui vont se passer dès les premiers jours, dès les premières semaines de vie de l'enfant. Alors ça, on le sait déjà en population générale, ça concerne en fait quasiment tous les couples. En moyenne, on voit déjà ces effets-là. Mais là, ça va être extrêmement renforcé. C'est-à-dire qu'en fait, dès les premiers jours, dès souvent les premiers symptômes, en fait, s'ils apparaissent dans les premières semaines, les premiers mois, va se déployer les rendez-vous médicaux, le fait d'essayer de comprendre ce qu'a l'enfant, l'errance diagnostique qui peut durer un petit moment, notamment quand ce sont des maladies rares. Et donc, en fait, les mères qui géraient déjà le parcours de soins, le parcours médical de l'enfant dès les premiers jours, ça, c'est les effets classiques du fait d'être en congé maternité plus longtemps et de gérer plus le soin. Eh bien, dès les premières semaines, va s'enclencher une certaine montée en expertise de ces mères qui vont prendre en charge les différents rendez-vous médicaux, qui vont pouvoir coordonner aussi les rendez-vous, faire le lien entre les différents médecins. Et c'est de plus en plus compliqué pour elles de déléguer. Alors, c'est déjà par gain de temps, tout simplement, puisque, en fait, le temps de réexpliquer aux conjoints ou parfois aux parents qui peuvent aider aussi. Est-ce qu'il faut demander aux médecins, où est-ce qu'on est le parcours médical, etc. Finalement, ça demande plus de temps et le temps est extrêmement contraint pour ces familles. Parfois, on a des mères qui ont essayé. Donc, j'ai beaucoup de mères qui m'expliquent qu'elles ont envoyé leur conjoint, en effet, pour faire un rendez-vous. Et en fait, il est revenu sans les infos dont elles avaient besoin, en fait, pour suivre le parcours. Et donc, elles ont très vite arrêté en se disant que voilà, ça servira à rien, que ce serait plus embêtant qu'autre chose pour le bien-être de l'enfant. En fait, pour ces mères qui se sont soit retirées du marché du travail, soit elles ont réduit leur activité professionnelle, il y a une précarité future, c'est-à-dire qu'elles sont plusieurs à me dire « moi, la retraite, j'y pense même pas, je toucherai le minimum retraite, donc qu'est-ce qui va se passer pour moi à ce moment-là » Une précarité pour celles qui se sont retirées du marché du travail, le fait de se dire qu'elles auront de grandes difficultés à y retourner. Donc, en fait, une précarité à moyen-long terme qu'elles anticipent sur le fait qu'elles ne vont pas pouvoir retourner facilement sur le marché de l'emploi. Et puis, une précarité aussi conjugale. En fait, j'ai plusieurs mères qui, en fait, me disent qu'elles ont pensé à se séparer. Elles souhaiteraient, en fait, une séparation conjugale et elles ne peuvent pas. Soit parce que elles savent pas quelle sera leur situation matérielle et financière au moment de la séparation. Elles ont peur d'être très précarisées. Ou alors parce que leur maison actuelle est adaptée au fauteuil roulant, etc. Il y a eu tout plein d'aménagements et elles savent qu'elles perdront la maison si elles se séparent. Donc il y a plein d'aspects comme ça qui aussi empêchent des séparations conjugales par peur de la précarité éventuelle ou même sûre qui adviendra si elles se séparent.
Vous êtes à la réculation. Et ce qui se passe ici, c'est que on travaille sur les avances-retards de nos véhicules, du réseau.
Des mères qui se retirent progressivement de la vie professionnelle ou doivent faire des aménagements pour continuer, coûte que coûte, de travailler.
Le réseau de La Rochelle. viens de leur dire. Donc Séverine.
C'est aussi le cas des aidantes, puisque ce sont en majorité des femmes, de personnes âgées dépendantes.
Voilà. Là, en ce moment, elles circulent donc, sur la ligne 1, ici, véhicule 548, qui se situe sur la zone de Bel Air. Voilà, et en ce moment, elle est à l'approche de l'arrêt Malidor. Et donc, elle a 1 minute de retard. Séverine finit à 13h08 ici, théorique. Voilà.
Donc là, je me suis levée à 3h30 du matin. Je suis partie à 4h30, j'embauchais à 5h30. J'ai fait mon service, donc là j'ai terminé à 13h08. Donc là normalement, je prends la route en débauchant, je rentre chez moi. Là je fais mes tâches quotidiennes à moi, je passe un coup d'aspirateur, un coup. J'ai 3 chiens, hein, donc voilà la maison, voilà le linge. Je me pose aussi des fois 5 minutes parce que la fatigue. Et après, sur les coups de 16h30-17h, je pars chez mes parents. Donc, j'étends le linge, je fais les papiers aussi. Ça, les papiers, ça y est, c'est maintenant, c'est bon. Ils savent pas, ils savent plus. Là, je me suis occupée de leur déclaration d'impôt. Je vois si les prélèvements automatiques passent bien, si quand les factures d'eau arrivent, tout ça, c'est moi qui gère. Je gère tout. Après, on voit ce qu'ils ont envie de manger, ce qui leur ferait plaisir. Voilà. On prépare les listes de courses, Voilà, on discute aussi. Ils se couchent tout seuls, quand même. Mais c'est moi qui ferme. Comme ça, ils savent qu'ils sont renfermés. Il n'y a pas de... Voilà. Et moi, je sais que je pars. Tout est fermé à clé, le portillon, la porte, les volets et tout. Voilà. Et donc, mon papa est handicapé depuis 2013. Il a pas mal de pépins de santé. Alors, il a toute sa tête. La tête, elle fonctionne à 2000%. Par contre, le corps ne suit plus. Et ma maman, ça s'est dégradé il y a, on va dire, 1 an et demi. Il y a 2 ans, j'ai perdu mon cousin qui est décédé d'un cancer. Et 1 an après, sa maman, donc la sœur de ma mère, s'est suicidée. Et de ce jour-là, j'ai vu ma mère sombrer au jour le jour. Et... 1 an après le suicide de ma tante, elle a déclaré un cancer du côlon assez virulent. Donc voilà. Je voulais continuer à travailler. C'est quelque chose qui est hyper important pour mon équilibre psychologique, quoi. Me dire, je vais travailler. Voilà, j'ai fait mon travail. Maintenant, je ferme ce livre. Je vais chez mes parents m'occuper d'eux. Mais voilà, j'ai 3 matins par semaine. Puis après, j'essaye, moi, les 2 autres jours, d'échanger avec mes collègues pour pouvoir être de matin tout le temps. Parce que, en fait, si vous voulez, le matin, j'ai pas de soucis, je suis pas inquiète. L'infirmière passe tous les matins, l'aide ménagère vient 3 fois par semaine et j'ai le kiné qui vient tous les matins aussi. Par contre, l'après-midi, ils ont personne. J'ai toujours mon portable avec moi, là. Avant de commencer à discuter avec vous, j'ai regardé si j'avais pas un message au cas où.
Et pendant le bus ?
À chaque terminus. À chaque bout de ligne, en fait. À chaque fois que j'arrive en bout de ligne, je regarde si j'ai pas un message. Et à ma pause, je les appelle, savoir si tout va bien, si l'infirmière est passée. Peut-être parce que je suis très fusionnelle avec eux. Certainement. Et même, c'est même sûr. Et je me dis que... Eux ont pris soin de nous de moi quand j'étais petite. Et aujourd'hui, ils ont besoin de moi. Donc, c'est normal que je sois là. C'est normal que je sois présente. C'est normal que je sois disponible. Enfin, que je me rende disponible au maximum. Donc, j'ai un frère qui n'est pas spécialement présent. Il a sa vie. Oui. J'ai eu du mal à me dire, à me considérer comme aidante. Je ne me considérais pas comme ça jusqu'à ce que Madame Marès et Elodie, l'assistante sociale, me disent qu'aujourd'hui, j'avais un statut qui était bien défini, qui était même aidante plus, puisque je m'occupe de mes 2 parents. Parce que pour moi, c'est naturel d'aider mes parents. C'est de la logique. Donc, me dire qu'il y a un statut pour ça, je ne l'avais pas envisagé.
Donc je suis Sophie Marès, je suis directrice des ressources humaines de la Régie des transports communautaires Rochelet.
On est parti d'un questionnaire, c'est-à-dire qu'on avait une vague idée, on se disait oui, on connaît quelques situations de gens qui sont aidants, soit parce que ils ont des enfants handicapés, soit ils ont des parents âgés, on entend qu'il y a des rendez-vous à prendre, des ajustements à faire. Donc on avait une vague idée. Maintenant, ce qu'on a fait, c'est que on a envoyé un questionnaire à nos salariés, où ils répondaient s'ils le souhaitaient, sur un ensemble de questions par rapport à l'aidance. Et pour essayer d'identifier quel type d'aidance existait dans l'entreprise, et puis aussi surtout, parce que c'est ça le plus important, quels étaient leurs besoins. Aujourd'hui, donc on est maintenant 2 ans plus tard, ce que nous on a mis en place, c'est d'apporter de l'information, parce que le premier besoin identifié c'était ça, c'était donnez-nous de l'information. Qu'est-ce qui existe? Et donc, c'est pour ça que nous, la première action qu'on a menée a été de créer un guide d'information sur ce qui existe pour accompagner les salariés aidants sur le plan national, sur le plan local. Par exemple, on va donner les coordonnées de France Alzheimer, on va donner les coordonnées de la Ligue contre le cancer. Tout ça, ce sont des relais où, dans l'absolu, on se dit bon, c'est pas très compliqué, oui, mais quand vous avez déjà une surcharge extrêmement importante, savoir que vous avez un repère, vous avez ce document-là.
Dans ce guide, l'entreprise recense aussi les droits et dispositifs auxquels les aidants salariés peuvent prétendre. Les aides financières pour aménager le domicile, les 3 mois de congé proche aidant, le droit au répit, cette enveloppe d'environ 500 euros qui permet de financer l'accueil en établissement de son proche pendant quelques jours.
Et après, il y a un autre volet qui est extrêmement important. Sur ce livret-là, il y a aussi les coordonnées de notre assistante sociale, qui a un rôle clé dans notre dispositif. Parce que l'assistante sociale va les recevoir à la demande. Ils prennent rendez-vous avec elle directement et elle peut échanger avec eux sur des besoins qu'ils auraient pour aller les aider à trouver des ressources, des aides, monter un dossier, des choses comme ça. Et elle va beaucoup plus à accompagner le salarié aidant dans sa vie personnelle, puisque là, c'est hors de l'entreprise. Vous pouvez être salarié aidant, mais vous n'avez pas du tout envie que tout le monde sache ce qui vous arrive. Et ça, c'est un point qui est important à respecter aussi. D'où le tiers intervenant qui est l'assistante sociale. Quand elle va dans le détail du besoin, elle va dans le détail avec le salarié, mais ça ne concerne pas les autres salariés et nous, on n'a pas à voir le détail en tant que direction non plus.
Alors, au départ, j'en avais parlé qu'à 1 ou 2 collègues, ce qui m'arrivait. Et mes collègues m'ont dit, mais attends, il y a une assistante sociale au travail, tu peux aller la voir. Et ils ont mis des choses en place pour quand il arrive des choses comme ça, va voir Madame Marès. J'osais pas y aller parce que j'estimais que y avait certainement des collègues qui avaient plus besoin d'aide que moi. Je pensais pouvoir me débrouiller toute seule. Et en fait, non, pas du tout. J'ai pris rendez-vous, je suis allée voir d'abord Madame Marès qui m'a dit « on va revoir ce qu'on peut faire déjà au niveau de planning tout de suite pour vous libérer un petit peu ». Et puis après j'ai pris contact avec l'assistante sociale qui m'a, elle, aiguillée sur plein de choses, quoi. Comment mettre en place les aides à domicile parce que c'était pas gagné. Contacter les organismes, voir comment on monte le dossier. Et après moi de mon côté, il fallait que j'arrive à convaincre mes parents d'avoir quelqu'un qui vienne chez eux. Et ça... ça, c'était pas gagné.
L'entreprise propose aussi d'autres aménagements à ses salariés aidants. Un compte épargne-temps pour s'absenter en cas d'urgence, le don de jours de congé entre employés, ou encore, via la mutuelle de l'entreprise, des séjours de répit.
Lorsque vous êtes aidant, vous avez des besoins spécifiques. Ça peut être de pouvoir être présent le matin, de pouvoir être présent l'après-midi. Et en fonction de l'aidance que vous n'avez pas les mêmes besoins que l'autre salarié aidant. Donc ce qu'on a convenu et validé avec les partenaires sociaux, c'est que là où normalement il y a des critères dans le choix, dans les souhaits des horaires de travail, eh bien celui qui est identifié salarié aidant passe en priorité sur le choix de son groupe de travail. Et donc, c'est là où le collectif soutient l'ensemble des salariés. C'est pas juste la direction qui décide de soutenir. Parce que lorsque vous dites le salarié aidant, il passe devant les souhaits des autres, il y en a qui n'auront pas leurs souhaits de ce fait, en fait. Puisque il y a un nombre de places limitées par groupe. Donc, c'est là où c'est important que tout le monde, petit à petit, prenne conscience du sujet, de ce que c'est, de sa temporalité, des conséquences que ça peut avoir.
Voilà, aujourd'hui, effectivement, au niveau des collègues, bon, bah, les choses sont claires, ils savent. Quand je demande à faire un échange, j'explique pourquoi j'ai besoin d'être de matin. Donc, en général, ils me disent « Ah, mais non, mais ça ne nous regarde pas. Non, mais moi, j'ai rien à cacher. » Aujourd'hui, ça m'arrive à moi. Demain, ça peut arriver à n'importe qui. Et je me dis que bah, d'en parler, parfois, ça peut peut-être ouvrir, donner des petits indices. Personne n'est à l'abri d'être confronté un jour à un problème comme ça. Et j'espère un jour pouvoir rendre ce qu'ils m'ont permis de mettre en place aujourd'hui, quoi.
À la RTCR, le salarié qui est aidant, c'est un salarié où on va aménager, je dirais, des horaires, mais c'est un salarié qui fait son boulot. On n'est pas dans une situation où on va dire à un salarié, tu es aidant, donc on réduit ta charge de travail ou des choses comme ça. Aujourd'hui, on n'est pas sur ça à la RTCR. Le conducteur, lorsqu'il est à son poste de conduite, qu'il soit aidant, qu'il soit pas aidant, il fait le travail comme les autres. Et effectivement, beaucoup de salariés aidants viennent nous dire mais moi, quand je viens travailler, j'oublie les soucis, tout ce que j'ai à gérer à côté, et je me concentre sur ma vie professionnelle. Et ma vie professionnelle est effectivement une zone de respiration parce que bah, je bosse, j'ai des résultats, je rends le service que je dois rendre, et c'est une source de satisfaction. Et le plus intéressant côté entreprise, c'est quand le salarié se dit « je peux faire mon travail et je peux gérer ma situation personnelle. Je trouve à peu près l'équilibre. »
Les aidants qui travaillent souhaitent continuer de travailler.
Morgane Hiron, déléguée générale du collectif Je t'aide.
Pour plusieurs raisons. D'abord, c'est évidemment une question de ressources financières. On l'a dit, aider un proche, c'est aussi contribuer aux finances, à ses finances. Donc, on a besoin de revenus. Travailler, c'est faire partie d'un collectif de travail, c'est faire partie de la société. Et donc, travailler, ça permet aux aidants d'être moins isolés chez eux. Et puis, c'est aussi un moyen pour eux de continuer de garder, en tout cas, confiance en eux, ou en tout cas d'être perçus, pas toujours sous, justement, le prisme de l'aidance, mais aussi sous le prisme d'être un ou une professionnelle reconnue. C'est pour ça que certains aidants font le choix de ne pas dire sur leur lieu de travail qu'ils sont aidants. Puisque dans leur vie personnelle, tout le monde leur demande « comment va ta mère ? Comment va ton fils ?» Et peut-être que voilà, le travail, parfois, ça peut être le seul lieu où on ne parle pas justement de cette personne aidée et où on parle du travail, on parle d'autre chose. Parfois, ils ne le disent pas parce qu'ils ont peur d'être stigmatisés. Ils ont peur de ne pas pouvoir évoluer professionnellement comme ils le voudraient. Donc, ça reste parfois un non-choix, finalement, de ne pas le dire en entreprise ou de le dire seulement à certaines personnes au sein de l'entreprise.
Après, il ne faut pas se leurrer non plus. L'entreprise, elle peut proposer, mais elle a des limites aussi. Et c'est là où le dialogue est extrêmement important. C'est-à-dire que le salarié va exprimer ses besoins et l'entreprise va lui dire « jusque-là, je peux t'accompagner ou pas ». La première limite, c'est que l'entreprise, son rôle est de ne jamais entrer dans le rôle de l'aidant à la place du salarié. L'entreprise, elle soutient le salarié, mais l'aidant, c'est le salarié, c'est pas nous. C'est pas nous qui allons, par exemple, organiser des soins à la place du salarié. C'est pas notre rôle, c'est pas la place de l'entreprise. Deuxième limite, c'est que, en fonction des besoins spécifiques du salarié, est-ce que dans notre organisation, c'est compatible ? Le salarié qui pourrait avoir des demandes de pouvoir rentrer chez lui, je vais faire une caricature, mais toutes les heures, pendant un quart d'heure, tout au long de la journée, je suis désolée, mais l'entreprise, elle peut pas le gérer, ça. Ça, ce serait une limite. Et c'est pour ça que le dialogue est extrêmement important. Ça permet au salarié d'identifier ses besoins et l'entreprise de dire « jusque-là, moi, je peux accompagner, au-delà, je pourrais pas ».
Il y a des travaux qui existent qui montrent que, de manière ponctuelle, beaucoup d'entreprises font des choses.
Blanche Le Bihan, enseignante-chercheure à l'École des hautes études en santé publique.
Mais ça reste le début de quelque chose. Ils font des choses parce qu'il y a un intérêt derrière, c'est-à-dire qu'on est toujours sur cette logique de démontrer la valeur économique d'une intervention sociale, en fait. Et on retrouve la problématique de l'investissement social, cette idée qu'en donnant effectivement la possibilité à un salarié de prendre des congés, c'est du social, mais c'est un investissement social parce que vous allez faire en sorte que votre salarié soit mieux pour affronter les différentes responsabilités et obligations de sa vie professionnelle et personnelle et familiale. C'est-à-dire qu'en
l'aidant à avoir du temps pour être un bon aidant de sa vieille mère, et bien vous avez un meilleur salarié. Voilà.
Alors, l'entreprise, pour moi, a un grand intérêt à s'inquiéter du sujet des salariés aidants à plusieurs niveaux. Si on regarde en court terme, mon expérience des salariés aidants, c'est que lorsque vous vous accompagnez, vous essayez autant que possible dans votre structure de tenir compte de certains impératifs, en fait, ces salariés-là ont moins d'absentéisme, effectivement. J'ai beaucoup moins d'absentéisme chez les salariés aidants que sur le reste de l'entreprise. Parce que le salarié aidant, et vraiment, j'en suis convaincue, c'est un salarié qui veut travailler, qui, en plus, quand il est là, il est content d'être là. Donc, si on réussit à aménager pour qu'il puisse tout organiser dans sa situation personnelle, déjà, l'entreprise, elle y gagne, on est en court terme. Maintenant, moyen, long terme. Si aujourd'hui, on a un salarié sur cinq dans les statistiques qui est salarié aidant, on sait qu'à 2030, donc c'est très très près, il y en a un sur quatre. Si on ne s'apprend pas tous, et l'entreprise et le salarié, à discuter de ces situations-là, arrive un moment, on n'arrivera plus à gérer. Parce que si on ne sait pas intégrer ce type d'aménagement, on n'aura pas les effectifs, on n'aura pas les ressources en moyen long terme. Et on aura des gens qui vont décrocher, qui vont partir ou qui viendront pas, parce qu'il n'y a pas cette prise en compte. Mais c'est valable pour la RTCR, mais c'est valable pour toutes les entreprises. Hein. Moi, c'est vraiment le sujet où j'ai envie d'inciter tous les DRH à s'interroger sur le sujet.
La RTCR fait un peu figure d'exception. Aujourd'hui, ce sont plutôt les grands groupes qui mettent en place des dispositifs formels pour améliorer la vie de leurs employés. Il est en effet plus facile, dans une entreprise où les salariés sont nombreux, de compenser l'absence ou la réduction du temps de travail de l'un d'eux, ou de financer des aides pour l'accompagner. Et puis, pour ces grands groupes, ça peut être un atout dans leur stratégie de communication. L'occasion de faire valoir leur image d'entreprise soucieuse du bien-être de leurs employés.
Je m'appelle Christelle Evita, parisienne, et je suis salariée aidante auprès de ma mère, qui est une dame octogénaire qui a des troubles neurodégénératifs. Et je l'aide avec ma sœur, on est deux, mais ça date maintenant depuis une dizaine d'années. Ça a commencé, en tout cas au moment où vraiment je n'ai plus pu me voiler la face, ça a été vers 2013, oubli de mots, oubli des trajets, oubli de son code de carte bleue, où elle a commencé aussi à m'appeler en pleine nuit, de plus en plus. « Ah pardon, je te réveille !» Donc une fois, deux fois, trois fois, et puis ensuite, lorsque je vais chez elle ou lorsque ma sœur s'y rend, tout est beaucoup, beaucoup, beaucoup de désordre. Mais ça s'est installé progressivement. Et puis, clairement, moi, j'avais pas envie de reconnaître que ça n'allait pas, quoi. C'est l'âge, c'est normal, elle oublie. Puis, en fait, un jour, je prends mon courage à deux mains et j'en parle avec ma sœur. Je lui dis, mais t'as pas l'impression qu'il y a quelque chose de bizarre avec maman? Et elle me dit, ah ouais, toi aussi, t'as réalisé. Et là, je peux plus faire semblant, en fait, de me dire qu'il y a pas quelque chose. À ce moment-là, ce que je vais faire, ça va être d'être plus présente. Donc, je vais commencer à organiser ma vie personnelle et ma vie professionnelle autour de sa vie à elle. Donc, le matin, appel, texto toute la journée, venir une à deux fois par semaine avec elle, enfin chez elle, pour être là, mais aussi pour la surveiller. Je suis à 45 minutes, une heure de RER. Donc, ça fait deux heures environ aller-retour. Donc, je suis au travail et je pars du travail et j'enchaîne tout de suite, je vais chez elle. Et après, je vais rentrer chez moi où je vais profiter du week-end, les courses, l'administratif. Donc, ce que je faisais déjà, ce que ma sœur aussi, on faisait déjà, mais on s'est mis à le faire de manière quasi militaire, quoi. Donc, moi, beaucoup plus administratif. Ma sœur, ça a été la nourriture. Donc, en mode, on va compenser. Et moi, pendant ce temps-là, au travail, je dis rien. On gère, elle vieillit, tu dois t'en occuper. Donc je gère, j'en parle pas, je pars du travail, je fais mon heure de trajet, j'en parle pas. À partir de cette période où j'ai vu qu'elle commençait à décliner, quand son numéro s'affichait, quoi que je faisais au travail, je décrochais. Quoi que je faisais. Si c'était une réunion ou c'était à distance, je mettais sur mute. Si c'était une réunion en physique, je disais, excusez-moi, je dois sortir. Mais je n'ai plus jamais pas pris un appel, même si c'était, entre guillemets, pour rien. Des fois, c'était pour me dire où est tel truc. Ou... Au travail, j'arrivais à rester productive parce que ben, je pouvais m'ajuster. Et puis, de toutes les façons, ben, je pouvais travailler le soir, je pouvais travailler le week-end. Donc, j'y arrivais.
Donc, ce sont des femmes qui veulent se montrer irréprochables pour compenser les aménagements ou les imprévus ou les absences qu'elles vont avoir.
Sophie Dessin.
Et donc, ça peut être le fait d'avoir des dossiers absolument nickel pour que, quand elles se mettent en arrêt pour une hospitalisation, elles n'aient aucun reproche là-dessus. Et finalement, ce surinvestissement, c'est un peu une charge mentale. C'est ce qu'on appelle la charge mentale dans l'espace domestique, mais une charge mentale dans le travail, c'est-à-dire une perpétuelle anticipation des imprévus ou une anticipation pour faire en sorte que tout s'articule bien dans le futur.
La situation, elle va basculer en 2019, donc le 15 octobre 2019, ma sœur va venir, comme elle le fait d'habitude, pour lui apporter un repas. Et en fait, elle la trouve inconsciente dans les toilettes. Et donc, elle appelle les pompiers. Les pompiers l'amènent à l'hôpital, etc. Elle va rester donc 6 mois. Elle est hospitalisée en donc un service de soins de suite gériatrique. Et peut-être une semaine plus tard, en gros, le médecin va nous revoir et en nous disant « Bon, de toute façon, là, Madame Valère, elle ne va plus pouvoir retourner chez elle. Donc, il faut que vous organisiez les choses pour la faire accueillir en EHPAD. Puis vous allez rencontrer l'assistante sociale pour remettre tout ça en œuvre, administrativement, pour ses comptes, etc. » Et donc, bam, 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 bam. Et il ne nous a jamais dit « Vous devenez aidante. » Mais du jour au lendemain, enfin comme ça, en 10 minutes, j'ai changé de statut, quoi. On m'a dit « Ta mère, elle va rentrer en EHPAD. Ah d'accord, ok. Maintenant, c'est à vous de la gérer. Ah d'accord, ok. » Et c'est ajouté à cela le fait que moi, j'étais tout de suite convaincue que, évidemment, moi, elle n'allait pas rentrer à la maison parce que sinon, c'était ma sœur et moi qui allions devoir faire les aides à domicile. Mais ma sœur, elle, c'était pas du tout le projet de vie qu'elle voulait pour notre mère. Donc, ça a créé des tensions, des brouilles fortes. Donc là, je me souviens, ça a été émotionnellement difficile. Et au travail, là, j'ai été obligée de le dire. Parce que il a fallu aller à l'hôpital pendant les heures d'ouverture de l'hôpital. Donc, le médecin, il me dit, moi, je peux vous recevoir à 11h. Je vais pas lui dire, oui, ok, 14, non. Donc, j'en parle à mon boss. Et lui, ce boss extraordinaire, il me dit, non, mais ne t'inquiète pas, Christelle, la priorité, c'est ta mère. Donc, si t'as besoin même de t'arrêter, tu t'arrêtes. Mais moi, je sentais que je voulais pas m'arrêter parce que j'avais peur de sombrer, quoi. J'avais pas envie de faire juste hôpital, maison. Hôpital, maison. Il fallait que j'avais besoin d'être dans un endroit, un point zéro, quoi. Un truc où les gens, ils vont me parler d'autre chose, où déjà, ils connaissent pas toute ma situation, sauf mon boss. Et donc, j'ai continué à aller au travail et c'était comme une respiration, en fait. Le travail, c'était le seul endroit de normalité. Donc, j'allais à l'hôpital, je prenais des conférences depuis l'hôpital lorsque c'était des conférences à distance. Je travaillais soit plutôt le matin, parce qu'en fait, j'ai commencé à avoir des insomnies, donc je me réveillais très tôt et j'avançais mes dossiers au maximum pour que lorsque j'allais dans les transports, pour aller voir ma mère ou des choses comme ça, j'ai déjà quelque part fait une partie de ma journée de travail. Puis après, il y avait le soir, le week-end. Mon boss, ça lui posait pas de problème. Il me disait, très bien. Il y avait une bonne intelligence.
Le besoin le plus fort des aidants, c'est la flexibilité, en fait, c'est du temps.
Blanche le bien.
On a besoin de temps, pour s'occuper de son enfant en situation de handicap parce qu'il ne peut pas aller à l'école, parce qu'il a fait une crise, parce que du coup, ce n'est pas possible, donc je dois rester. Ou bien je dois absolument amener ma mère qui souffre de la maladie d'Alzheimer chez le médecin parce que là, ça devient catastrophique le quotidien. Il faut faire quelque chose, il faut intervenir. Donc, il y a une situation de crise à gérer et donc on a besoin de temps. Et donc, ce temps, la réponse des pouvoirs publics, c'est les congés. Donc, le congé de proche aidant, alors l'entreprise de son côté, qu'est-ce qu'elle peut faire? D'abord, elle peut donner des jours supplémentaires, elle peut donner des indemnités supplémentaires, mais ça, pour le moment, c'est peu répandu. Et elle peut faciliter les aménagements du temps de travail avec le télétravail. Ça aussi, c'est une réponse. C'est-à-dire que le télétravail est une réponse dans la souplesse et dans l'aménagement du temps de travail, mais de manière informelle.
On a effectivement, sans doute aujourd'hui, plus qu'hier, une porosité plus grande entre la sphère familiale et la sphère professionnelle.
Roméo Fontaine.
Les cadres en particulier le vivent aujourd'hui beaucoup. Et le télétravail vient d'autant plus rendre poreuse cette frontière-là, et avec les avantages et les inconvénients. Ça offre une plus grande souplesse, et puis le revers de la médaille de cette souplesse, bah, c'est effectivement que ça rend les choses plus compliquées, et que le cloisonnement, des fois, a aussi une utilité. C'est-à-dire que ça nous aide à nous organiser. Des fois, on utilise cette souplesse-là, et des fois, elle rend les choses plus compliquées, c'est sûr.
Et dans le poste que j'avais un poste de management d'équipe et de projet. En fait, je me dis, mais Christelle, je le réalise un peu à chaud, ça va pas être possible de continuer à être dans des activités où tu manages alors que tu dois pouvoir t'absenter pour aller voir des EHPAD, des trucs. Et donc, d'en accord avec mon boss, je lui dis, écoute, je vais lâcher le poste parce que merci, t'es super de m'avoir rendu possible le fait de faire les deux, mais ça va tous les deux nous mettre en difficulté. Et puis moi, en fait, je vais pas tenir. Et il me dit, OK, et donc je vais dans un poste où là, j'ai plus de management, c'est un poste d'expertise en communication. Donc je me suis dit, bah, tu laisses ce management qui, quand même, dans les entreprises, est un peu le graal de la réussite professionnelle. Donc je l'ai un peu mal vécu parce que en gros, j'allais dans un poste d'expertise. C'est pas les cadors, quoi. Enfin, on remet pas en cause votre niveau, mais je veux dire, vous avez fait du management, c'est un peu, ah ouais. Et ben, sauf que je voyais bien que je pouvais plus. Enfin, donc je me mets dans un poste d'expertise où, en gros, je vais perdre en statut professionnel. Et comme ça s'est très bien passé avec mon manager, le premier, je le dis tout de suite à la deuxième en lui disant, écoute, la situation personnelle, c'est ça, c'est ma mère qui est à l'hôpital mais qui va évoluer vers une situation en EHPAD. Et donc, je peux pas te dire, je sais pas comment les choses vont évoluer, mais si je change, c'est aussi pour pouvoir être plus facilement disponible s'il y a une urgence pour ma mère. Et sans non plus ne pas être au rendez-vous pour les objectifs du travail. Donc oui, il n'y a pas de problème. Donc je suis contente, quoi. Je me dis, c'est bien, toutes les valeurs que l'entreprise n'arrête pas de dire. Et de dire, oh, c'est génial, respect, transparence, nanana. Sauf que première réunion que je vais prendre à distance, elle va m'envoyer un texto pour me dire, ouais, pourquoi tu n'étais pas au bureau Là, je lui dis, mais je t'ai expliqué que je le prends à distance parce que le télétravail, que je le fasse chez moi ou à l'hôpital, je suis... Ouais, mais bon, c'est important quand même qu'on te voit au bureau et tout. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Et puis moi, le travail, c'est quelque chose qui est fondateur chez moi. J'ai grandi en banlieue parisienne, issue de quartiers populaires, défavorisés, issue de l'immigration, bon, toute cette ritournelle-là. Mais du coup, réussir professionnellement... Pour moi, c'est comme dans mon ADN, quoi. On a super investi là-dessus. Ma mère a super investi, ma sœur aussi, moi aussi. Donc pour moi, je devais continuer, quoi. Aussi pour ça, surtout que je vivais déjà une relégation en termes de statut professionnel puisque j'avais lâché le management. Donc je me suis dit, c'est quoi? Donc en plus, je vais lâcher mon poste et je vais me retrouver... en plus, je me souviens à ce moment-là, je me disais, mais en plus, t'as même pas de mec. Donc en fait, t'as rien. Donc, t'as rien. Donc, tu vas être quoi? Tu vas être juste la personne qui aide sa mère, quoi. Et c'était impossible. Donc, je me suis dit non. Enfin, je me suis pas dit comme ça, mais je reste au travail. Parce qu'au moins, j'ai un peu de réussite. Notre mère va rentrer en EHPAD début avril. Donc, je me dis, ah! Ça y est, je vais retrouver ma vie, mais je vais retrouver un peu de liberté, en tout cas, une moindre pression mentale. Allez, ça y est, je vais pouvoir, entre guillemets, renouer avec la vie et tout. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que les trois premiers mois, on doit y aller parce qu'elle a chuté et donc ils préfèrent la faire hospitaliser. Donc, je quitte le boulot, quoi, pour y aller. Donc, autant vous dire que quand les gens vous disent... Non, mais c'est bon, il en est pas de... Non, c'est pas vrai. L'aidance continue, elle est différente, mais elle continue parce que du jour au lendemain, il faut que je mette 700 € de ma poche pour l'EHPAD. Je vais cramer toute mon épargne, en fait. Alors, j'ai cette chance, je vais cramer mon épargne, mon 13e mois. Je vais pas partir en vacances parce que je vais prendre ces jours pour me les faire monnayer. Donc, je veux dire, les aides, c'est moi-même qui me les suis construites, quoi. Tous les congés... qui peuvent être sollicités en entreprise. Alors déjà, je les ai découverts une fois que je n'en avais plus le besoin. Parce que dans l'entreprise, pourtant, j'ai dit que j'étais aidante. Enfin, j'ai fait savoir. Mais je veux dire, il y a personne qui m'a dit, parce que je pense que même, en tout cas, cette manageuse ne savait pas que ça existait. Les autres collègues autour de moi, pourtant, qui eux-mêmes avaient des proches aussi en EHPAD, ne savaient pas que ça existait. Sur l'intranet, il n'y avait pas spécialement l'info. Donc, certes, j'ai vu passer ces trucs de congé proche aidant, mais comme c'était pas mon besoin, moi, mon besoin, c'était d'avoir de l'argent, parce que je voulais pas être en congé. Moi, je voulais pouvoir financer et ne pas m'appauvrir. Mais ces congés-là, moi, je les ai pas, j'y ai pas fait appel. Et puis, encore une fois, je pense qu'il y avait quelque chose de l'ordre de, j'ai pas besoin d'aide, quoi. Après les 6 premiers mois, on va dire, d'acculturation au sein de l'EHPAD, on va voir, ma sœur et moi, qu'elle trouve ses marques. Donc, elle, entre guillemets, ça va. Et c'est au moment où elle, ça va aller, où moi, ça va être la dégringolade, on va dire, psychique. Surtout qu'au travail, eh ben, ça se passe toujours de plus en plus mal. Donc, je rechange de poste au bout d'un an, quoi. La mort dans l'âme, parce que pour moi, je me dis, bah, en gros, ta carrière est vraiment foutue, quoi. Et là, je vais faire le pari, en tout cas, et je décide de ne pas parler de ma situation d'aidante sur le troisième poste. Parce qu'il y a un truc où la confiance, elle est brisée, quoi. La confiance avec l'employeur, elle est totalement brisée. Surtout que moi, je travaille dans la communication, donc les beaux discours, moi, je sais les faire, je les comprends, c'est moi qui les fais. Mais tout d'un coup, c'était bizarre. C'est comme si je m'étais fait prendre à ses propres discours. Je me dis, bah, Christelle, ah ouais, la confiance, la transparence, c'est toi qui inventes ces mots. Je fais, mais tu sais bien que c'est faux. Et donc, tu l'as appris dans le dur. T'as cru que c'était vrai, mais tu sais bien que c'est pas vrai. Donc, dans le nouveau poste, je vais pas dire que je suis aidante. Je vais juste dire, j'ai besoin de souplesse, j'ai besoin de pouvoir m'organiser. Voilà, c'est tout. Et donc, je continue dans cette entreprise, mais avec une rage, une hargne, une rancœur intense. Aujourd'hui, j'interviens dans des entreprises pour les sensibiliser sur le sujet. Donc, à côté de mon activité salariée, donc c'est une activité en indépendante. Et donc, ce que ça m'apporte, c'est bien évidemment, on va dire, de partager mon expérience avec d'autres pour leur donner le temps d'avance ou juste leur dire ce que tu vis, c'est tout à fait normal. Tu pètes un câble, c'est normal, ne t'en veux pas. Tu n'aimes pas cette situation, c'est normal. Tout le monde te dit que tu devrais trouver super de t'occuper de ta mère en perte d'autonomie. Mais non, j'ai envie de continuer aussi dans le salariat, même si dans le monde des indépendants, ça aussi c'est un vrai sujet, parce que ma sœur, par exemple, qui est indépendante, elle, quand elle a une mission et qu'elle l'annule parce que, quand elle l'a eu annulée parce que notre mère, etc., ben c'est zéro. C'est zéro. Donc on fait quoi avec les gens qui ne sont pas salariés? On fait quoi avec les gens qui sont en recherche d'emploi, mais qui ont aussi un proche dont ils doivent prendre soin? Et donc, ça me passionne aussi sur le monde des indépendants, parce que eux aussi, c'est un autre angle mort de l'aidance. Hein. On croit que tous les gens qui travaillent sont salariés. Ben non, il y a des indépendants. Eh bien, eux, ils sont obligés de faire en même temps. Plus que jamais. Situation could be much better than today. You know that you could do much better.
Merci à Anaïs Chenot, Sophie Audena, Roméo Fontaine, Sophie Dessin, Blanche Le Bihan, Morgane Iron, Sophie Marès, Christelle Evita, Séverine, Félix, Audrey et leurs enfants. Prise de son Yvan Turc, Patrick Muller et Raphaël Rousseau. Mixage, Bruno Mourlan. Chargée de programme, Marivonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Johanna Bedeau. Aidant, La vie en suspens. Un documentaire de Karine Loët réalisé par Clémence Gross. Les pages web, c'est sur franceculture.fr et le podcast sur l'appli Radio France.